Club Anna Kofi, l'émission dédiée aux conseillers en gestion de patrimoine sur Radio Patrimoine, présentée par David Charlet et Fabrice Coustet.
Bonjour, bienvenue à tous, on est ravis de vous retrouver pour ce nouveau numéro du Club Anna Kofi avec bien sûr David Charlet. Bonjour David.
Bonjour.
Le président de l'Anna Kofi, une actualité chargée du côté de l'association, la bataille des rémunérations, commissions, rétrocessions, où est-ce qu'on en est? Un très beau score de recrutement de nouveaux membres, on va voir ça dans un instant. Le dépôt de dossier à CPR, c'est là on parle de la réforme du courtage qui continue, la convention du 7 avril et puis vos 116 positions. Ça c'est pour l'actu Anna Kofi, l'actualité métier, un petit peu moins dense que d'habitude. On va tout de même parler là aussi de l'ESG, de la rémunération des courtages et de l'assurance crédit emprunteur. David, vous êtes prêt?
Tout à fait.
L'actualité, c'est parti.
Club Anna Kofi, l'actualité.
On démarre, je l'ai dit, avec l'actualité Anna Kofi et étude sur effectivement les commissions, les rétrocessions, le serpent de mer qui inquiète, qui peut-être alerte certains conseillers en gestion de patrimoine, est en train de ressurgir. Où on en est, David?
Oui, alors c'est pas une découverte qu'il allait ressurgir et c'est pas une découverte d'ailleurs qu'on continuera à en discuter parce qu'il y a deux questions. La première, c'est le modèle et après la seconde, c'est le niveau des prix en fait. Donc appelons ça des frais, mais enfin du prix que paye le client. Donc, pour l'instant, on est en train de vivre le débat autour du modèle, puisqu'il était prévu dans les deux directives MIF et DDA, donc MIF 2 et DDA, de les revoir à 2 ans. C'est exactement ce qui s'est passé. Les travaux ont été en cours. Et maintenant, on arrive un peu à la fin du match, si je puis dire. C'est-à-dire que tous ceux qui analysent ou ont analysé ces sujets autour des modèles économiques sortent leurs études, débattent, vont discuter avec la commission ou l'équivalent du Trésor européen, et posent leurs cartes avec leurs analyses et leurs arguments. On est vraiment à ce moment-là.
Donc, il y a une préconisation européenne?
Pas encore. Non, justement, l'idée c'est de la définir. Donc, on connaît des positions d'un certain nombre d'acteurs, qui peuvent d'ailleurs être parfaitement opposés, voire être des positions un peu entre les deux schémas. Tout existe. Donc voilà. Mais enfin, pour caricaturer, il y a deux camps, ceux qui sont pour qu'on garde les systèmes de rétrocession tels qu'on l'a, ceux qui sont pour les supprimer. Si ce n'est que vous avez tous les camps intermédiaires possibles, des gens qui sont pas fermés à l'idée de caper le niveau soit des rémunérations soit des frais. Encore une fois, nous on distingue vraiment les deux. Et en plus, nous en France, on a une particularité, c'est qu'on est vraiment dans un modèle mixte. Donc ce modèle mixte fait que nous le message qu'on essaye d'envoyer, c'est fichez-nous la paix,
parce qu'on a qui marche pas mal en plus,
qui marche pas mal, qui permet d'avoir un vrai échange entre le client et le prestataire, l'entreprise qui va lui proposer une prestation. Et après, le sujet c'est le niveau des prix. Mais ça, le débat sur les prix, il y a aucun problème pour l'avoir. D'ailleurs, il se règle tout seul. En vérité, il se règle tout seul dans nos métiers. On a vu les niveaux des frais prix baisser sur tendance longue, fortement. Mais tant que le modèle est correct et nous permet de développer des business, ça fonctionne. C'est un peu ça le constat des études de ceux qui disent laissez-nous tranquilles là-dessus.
On peut imaginer aussi, David, que finalement le client est roi, c'est toujours pareil. Si on n'est pas content de son niveau, par exemple de rétrocession, on peut aller soit le négocier, soit aller voir ailleurs, changer de modèle, pourquoi pas.
Oui, parce qu'il y a la transparence, c'est-à-dire que dans MIF et dans les textes qui avaient déjà acté le fait qu'on pouvait avoir les modèles qu'on voulait dans les différents pays, on imposait la transparence. Donc, et de toute façon, quel que soit le modèle d'une manière générale, parce que si vous êtes en honoraire, il faut bien que le client sache quel chèque il fait ou quel virement il fait. Et si vous êtes avec un système avec rétro, vous lui devez l'explication ex ante, ex post, donc avant, après, pendant, enfin tout le temps, de ce que vous allez avoir. Nous en France, on a renforcé ça en plus grâce à Pacte. Donc il le voit, ça lui plaît pas, il peut aller ailleurs. Et au jour d'aujourd'hui, vous avez des conseillers qui, même dans le modèle en rétrocession, et sans qu'on dise d'eux que ce sont des casseurs de prix, vous avez des CGP qui travaillent à 1% de frais d'entrée avec des frais de gestion très bas. De l'autre côté, vous en avez qui sont plus chers. Tous les modèles existent. Après, il y a une question de service délivré. Ou de taille de clients qu'ils acceptent. C'est vrai que pour des gens des cabinets qui proposent une prestation assez haut de gamme et qui prennent quasiment pas de frais et très peu d'honoraires, ils vont prendre un certain type de client quand même parce qu'il faut que ce soit rentable. Et c'est tout le sujet d'ailleurs de la transformation dans une économie purement honoraire, c'est que dans ce cas-là, on sait qu'ils se focusent exclusivement sur une typologie de clientèle. Les autres sont pas rentables, ils se débrouillent et le constat qu'on fait à l'international, c'est qu'ils se débrouillent pas en fait. Ils se débrouillent pas.
Alors, ça fait le lien, tiens, justement, avec le deuxième sujet qui est un recrutement massif. On va oser le mot, David, des chiffres assez inédits de nouveaux membres qui arrivent en pagaille. Preuve que le secteur va bien et dynamique.
Oui, alors, voilà, ce que donneront les chiffres de l'ORIAS, on verra, puisque le juge de paix, c'est l'ORIAS, hein, à l'échelle du marché, puisque tout le monde est censé inscrire son entreprise à l'ORIAS. C'est une surprise. Ceci étant, on disait déjà depuis un moment que ça frémissait et qu'on avait des conseils d'admission de fin d'année, des commissions d'admission, avec des scores assez élevés pour une fin d'année où les gens, on va dire, les entreprises adhèrent pour un ou deux mois. Bon, mais ils étaient assez élevés. On était sur des scores autour de 80 sur la fin d'année, 80 entreprises qui nous rejoignaient nouvelles. Là, on est très au-dessus de ce qu'on a connu dans l'histoire de l'ANA Coffee. Or, il faut se rappeler que l'ANA Coffee a eu un accélérateur autour des années 2010, 2009, 2010, 2011, qui l'ont fait devenir la première association alors que elle venait, comment dire, elle était en fond de cours, si je puis dire. Et là, on est très au-dessus, puisqu'en fait, on va avoir sur deux mois à peu près 330 entreprises nouvelles qui vont nous avoir rejoint. Faut se rendre compte que 3300 entreprises au 31 décembre, hein, dans les membres de l'ANA Coffee, 330.
Donc c'est 10%
en deux mois, c'est l'équivalent de 10% des effectifs qu'on avait avant rentrés en deux mois. Certes, on a bien sûr des adhérents qu'on va perdre, parce qu'au moment, quand on aura fini les réadhésions, on découvrira que quelques-uns ne sont pas là. Mais, pour vous donner un ordre de grandeur, le score le plus élevé obtenu par l'ANA Coffee avant, dans cette vague d'entrée massive des années 2010, c'était 120. Donc on est là sur deux mois d'affilée qui sont très au-dessus, et on est déjà en train de préparer la commission à venir, donc du mois d'après, et ce qu'elle annonce, c'est qu'en quelques jours, on a déjà 10 dossiers en cours de montage. C'est une arrivée et qui ça, commence à être un peu vraiment solide.
Donc 330 membres en deux mois, bravo, félicitations. Est-ce que c'est lié, à votre avis, à la réforme du courtage qui arrive? Peut-être certains prennent déjà position, se disent de toute façon, il va falloir choisir, autant aller à l'ANA Coffee.
Forcément en partie. Je pense que c'est lié à plusieurs choses. La première, c'est que des gens sont sortis des grandes institutions financières et créent leur boîte parce qu'ils ont l'âge, parce qu'ils en ont envie, et on le dit, même le monde universitaire avec qui on parle dit, on a plus de jeunes qui ont envie de créer des boîtes depuis. Ça fait quelques années, hein, donc ça commence à avoir des effets sur des gens qui viennent sur nos métiers, qui ont été formés dans nos métiers et plein de formations sur nos métiers. Donc il y a une génération, j'allais dire naturelle, logique. Où on arrive à un moment où il y a plus de volontaires classiques pour créer des entreprises. Mais ça n'explique pas la totalité du volume. Ensuite, vous avez donc ces gens qui sont sortis des grandes institutions et qui se cherchent un job et qui se disent « Merde, bah, j'ai l'âge, allons-y, je vais m'essayer de devenir chef d'entreprise. » Ok, mais celui-là, on l'a toujours connu, si ce n'est qu'on a eu une vague de dégazage, voire de gens qui, avec le Covid, ont eu envie de changer de vie. Et ces deux éléments comptent. Et puis après, oui, vous avez certainement l'arrivée, le début de l'arrivée de ce qui touche, de ce qui vient de la réforme du courtage. Si ce n'est que là-dessus, on voit qu'on a énormément de gens qui nous parlent. C'est-à-dire qu'on est les élus comme les salariés, on est très sollicités, vraiment très sollicités, pour organiser des rendez-vous avec des gens du monde du courtage qui n'étaient pas dans des assos, qui veulent comprendre de quoi on parle, qui veulent comprendre ce que va être leur offre. C'est la première fois que je vois des courtiers se regrouper, pas en assos, et demander au président que je suis le détail de notre accord avec la CPR, de notre système de prix, pas au service adhésion, non, c'est avec leur conseiller juridique. Et puis on est limite sommé de s'expliquer. Et de l'autre côté, d'autres qui disent on voudrait bien rencontrer, mais alors on voudrait rencontrer un de vos juristes, un de vos responsables adhésion, un de vos élus. Et voilà, il y a des gens qui clairement sont de bonne taille, ils n'étaient pas dans des associations, ils sont en train de faire leur marché, ça c'est vrai. Est-ce qu'ils sont déjà transformés, c'est la question. Oui, une partie, mais je pense qu'on n'a pas encore vu le plus gros.
Alors justement, ça fait le lien également avec la CPR, dépôt de dossier, cette réforme du courtage, elle est toujours en cours. Vous pouvez nous redonner les grandes dates, David?
La grande date maintenant, au point où on en est, hein, c'est 1er avril. La CPR doit donner des agréments, elle n'a pas trop le choix, hein, dans le courant de mars, parce que février est quasiment terminé, hein, de façon à ce qu'on puisse démarrer au 1er avril. Bon, voilà. Moi, mon problème est toujours le même depuis le départ. Hein, c'est, je vais avoir mon agrément en mars. On est en train donc, au regard de ce qu'on a déposé à la CPR, de construire le cahier des charges des développements digitaux. il va falloir développer, je vais caricaturer, mais enfin en une semaine, voilà. Mm-hmm. Bon, bah, donc mon seul problème à moi depuis le début, il est là. Le reste, on peut tout résoudre, que je sois d'accord avec l'ACPR ou pas, parce que par contre, on a découvert une ACPR qui est autrement plus stricte.
Ah oui.
Que l'AMF, stricte. Comment dire? Non, pas prête à avoir un échange où, dans lequel on va pouvoir faire entendre notre avis. C'est-à-dire une vision de comment, de ce que la loi dit et donc de comment ça doit être traduit. À nous de faire en sorte de pouvoir délivrer exactement ce qu'ils attendent. Voilà. Et ce qui était compliqué, on le savait depuis le début, c'est que comme la loi, tout ça est sorti vraiment en accéléré, on n'a pas eu d'échange avec la CPR pour s'entendre avant et se comprendre avant. Donc nous, on a déposé un dossier from scratch, tous. Et puis derrière, on a pris les commentaires de la CPR en découvrant ce qui leur allait, ce qui leur allait pas, sans même avoir eu de réunion de place. Ça, c'était très compliqué. En tout cas, le dossier est déposé après deux allers-retours avec la CPR. Donc, a priori, on a répondu à tout. La CPR a l'air d'avoir terminé le fait de nous poser des questions à nous. Donc, le dossier maintenant est en cours, direct au collège. C'est en tout cas ce qu'ils nous ont dit. On en est là. Le collège dira oui, tant mieux. Le collège dira non. Et ben, on corrigera notre dossier. On aura deux mois de retard, c'est ce que je vous dis. Mais ça a été un boulot de dingue dans les délais qui nous étaient impartis avec une ACPR qui, à l'évidence, découvrait aussi, en même temps que nous, comprenait ou imaginait en même temps que nous comment elle voulait que ce soit au regard des textes. Ça a été très particulier. Et ouais, on n'a pas eu le temps qu'on avait eu pour monter les co-régulateurs avec l'AMF à l'époque et cette capacité d'échange continue qu'on avait eu il y a 17 ans. Ça n'a pas existé. C'est un peu dommage, mais c'est vrai que les délais étaient très courts.
Et oui, c'est toujours les problèmes de ces concertations et puis des choses qu'on découvre bien évidemment en route. Alors tiens, justement, peut-être vous nous en parlerez lors de votre convention Anacofi 7 avril et Assemblée Générale, bien évidemment, ça se passe à Paris, en plein cœur de Paris, au Carrousel du Louvre.
Oui, Carrousel du Louvre, on recommence. Allez, on y retourne, on va...
C'est un bel endroit.
Mais l'endroit que nous avions découvert pour nos métiers, qui maintenant est très usité par tout un tas d'autres acteurs sont venus voir notre convention, ont trouvé que l'endroit était très agréable apparemment, et ont ensuite installé les leurs. Bon, eh bien, nous qui avions été les premiers à faire quelque chose là-bas, on y retourne, parce que pour la taille de nos organisations, c'est le meilleur endroit, faut être très clair, il n'y a pas tellement d'autres endroits dans Paris qui s'y prêtent, ou alors ils sont austères, ou alors ils sont avec la surface au sol correcte, mais pas la construction. Ouais, voilà. Donc, Carrousel du Louvre, des deux, trois possibles, c'est celui qu'on préfère, et puis c'est chez nous depuis maintenant plus de 10 ans. Donc, on y retourne, on va refaire ça en présentiel, Assemblée Générale, d'abord le matin des conférences. Alors, on est en train de préparer trois conférences, plus la remise du prix école et université qu'on n'a pas pu remettre, puisqu'il était prévu pour le grand débat de fin d'année qui a été annulé. Donc, on va remettre ça aux étudiants qui sont primés en fin de convention, trois tables rondes. La première table ronde, alors je ne sais plus dans l'ordre où elles sont parce que c'est pas encore tout à fait décidé cette histoire, mais en tout cas on va avoir une table avec les présidents de nos Anacofi internes, puisqu'on a une Anacofi par thématique. On va ensuite avoir une table ronde avec des invités spectre plus large, si je puis dire, peut-être plus macro. Donc là, on aura a priori l'AMF, la CPR, on aura le CCSF, on aura peut-être le président de la CPME. La plupart des gens sont actés, mais pas tout à fait tous. Donc ça devrait être réglé dans la journée pour le coup. Mais ça, du coup, il faut que cette journée se finisse pour que j'ai le détail. Et une dernière table où là, c'est ce qu'on appelle la table des présidents. Hein, chez nous, elle a toujours existé. Donc là, ce seront des présidents d'associations extérieures. Donc Julien Serraki et Eric Pinon ont déjà dit oui. La question, c'est après, il y a eu trois autres invitations. Il y en a deux qui m'ont dit je suis désolé, je peux pas venir. Et un troisième, bon, j'attends la réponse. Voilà. Et puis cette remise de prix. Et puis nos AG. Rien de très spécial, si ce n'est ce moment où on va devoir voter les modifications demandées par la CPR à l'Anacofi Courtage. Le reste sera extrêmement basique. Hein. On n'a rien d'extraordinaire sinon cette année à l'Anacofi, si ce n'est rendre compte de ce qui s'est passé, essayer de passer un bon moment ensemble, remettre en fonctionnement cette manière de terminer l'événement Anacofi, qui elle, pour le coup, a presque 20 ans, avec ce moment où on transforme tout. En endroit convivial pour passer la soirée avec ceux qui sont encore des nôtres.
A priori, on n'a plus l'épée de Damoclès du risque sanitaire. On croise les doigts.
Ouais, je pense que là, on a. Non, mais de toute façon, là, je pense pas qu'on aurait une interdiction quelconque si on devait resserrer parce qu'ils se rendent compte que ça dérape. Je pense qu'on se retrouverait avec les masques et peut-être le pass sanitaire qu'on nous annonce annulé, mais qu'on remettrait. L'annulation de l'événement, j'y crois pas. Bon, voilà. Après,
écoutez, si on a tort. On se souvient de précédentes éditions où c'est vrai qu'on était toujours un peu sur le fil du rasoir à se dire là, est-ce que ça va lieu, pas
là,
lieu,
on n'a pas l'air de l'être. C'est sûr que si ça nous réarrivait, ce serait une douche froide, parce que je rappelle que cet événement, là, de la première fois qu'on a dû l'annuler avec le premier confinement, ça a expliqué les résultats financiers de l'Anacofi, qui avait déjà quasiment tout payé, et à l'époque n'a pas pu avoir les remboursements de la totalité, même, je rappelle que le Covid n'était pas forcément dans les contrats d'assurance souscrits, enfin bref, passons, mais, donc c'est vrai que ce serait une très mauvaise surprise, mais là, on a pas vraiment de risque. On a peut-être des risques de devoir adapter quelque chose en dernière minute,
mais le démonter, non. Allez, rendez-vous pour tous les adhérents, bien évidemment, le 7 avril. On regarde les 116 propositions, alors pas les 116, mais on les égrène tout au long de ces clubs Anacofi successifs. On avait parlé justement de la rémunération la dernière fois et de vos positions. On va parler, tiens, de la traque de l'exercice illégal, un sujet dont vous êtes emparé, hein, puisque effectivement l'AMF évidemment a mis en garde sur les arnaques. Certains n'hésitent pas, peu scrupuleux, à aspirer comme ça les sites internet ou à les recréer de facto ou à se prévaloir d'être tel ou tel CGP ou compagnie. Comment on peut lutter contre ça? Qu'est-ce que vous recommandez?
On n'a pas grand-chose comme arme pour l'empêcher. On a des armes pour réagir. Mais pour l'empêcher, malheureusement, à partir du moment où c'est fait par des gens qui viennent vous copier, qui vous préviennent pas, et qui disparaissent aussi vite qu'ils sont apparus, la seule chose que vous pouvez faire, c'est aller porter plainte, c'est réagir auprès de vos clients. Comment voulez-vous réagir auprès de ceux qui sont pas vos clients et qui ont été approchés par ces gens, tant qu'ils se manifestent pas? Donc, le plus important, c'est la plainte, c'est l'information de votre organisation professionnelle, c'est l'information des autorités, pour que tout ce petit monde sache que d'abord, c'est pas vous, que l'organisation pro à laquelle vous appartenez, et en l'occurrence l'Anacofi pour ceux de nos membres, mettre dans sa partie alerte, cher public, potentiel client de nos membres, sachez que, attention, cette marque est attaquée. Et ça arrive à tout le monde, ça vient d'arriver à l'Anacofi, au CNTGI, ça nous est arrivé il y a quelques semaines. Donc nous, on a porté plainte auprès du procureur, nos membres ont reçu un mail qui leur expliquait que la loi Allure venait de créer le CNTGI. Tout est vrai, mais il faut quand même l'oser et se rappeler que ça fait un paquet d'années que la loi Allure existe. Hein. Donc, ils ont reçu un mail signé de notre ancienne responsable juridique qui les enjoignait d'aller se connecter sur le nouveau site, sur le site de cette nouvelle entité créée comme autorité de l'immobilier qui s'appelle le CNTGI. Et évidemment, c'était pas le cas. Et etc.
Le Conseil national de la transaction et de la gestion immobilière.
Voilà. Créé par la loi Allure, mais il y a des années. Ouais. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de scoop si ce n'est que pour
le site était faux. Ça, ou...
Ah bah vous faisiez capturer et inviter à faire des trucs sur le en suivant le lien que nous on a volontairement pas suivi, hein, donc voilà, simplement on a eu des remontées d'aimants. Ça arrive donc absolument à tout le monde. Nous, on a eu le réflexe, on a mis une alerte, on a envoyé un mail à tous nos membres et on a porté plainte. Bah c'est la même chose, hein, je crois, pour une entreprise à qui ça arrive, si ce n'est qu'on l'a déjà dit, surveillez votre vie sur internet et sur les réseaux. Le premier conseil que m'avait donné la personne qui nous a la toute première qui nous a conseillé sur la communication à l'Anacofi de façon professionnelle, ça avait été de dire sur chacun des réseaux installez votre page. Ça évitera déjà, même si elle est morte, même si elle est pas très vivante, etc. Mais regardez-la périodiquement. Mais ça évitera que quelqu'un vienne prendre votre nom et s'installer à votre place. Ça, c'est un premier point. Et la deuxième chose, c'est aller regarder sur ces réseaux sociaux, mais aussi sur Internet, en tapant de temps en temps votre nom et le nom de votre société. Et c'est encore plus vrai si vous n'avez pas de site Internet. Parce que 50% des CGP n'ont pas de site Internet. Certains n'en veulent véritablement pas, ça n'empêche pas de surveiller si par hasard, il n'y a pas quelqu'un qui en a créé un en votre nom et qui, sous votre marque, est en train de vendre un certain nombre de saloperies. Ça ne résoudra pas tous les problèmes d'usurpation, mais ça pourrait permettre de couper plus vite une usurpation en cours.
Voilà qui est dit, et donc point d'alerte également, c'est dans les 116 positions à retrouver le document sur le site de l'Anacofi.
On voudrait aussi que les procureurs attaquent plus souvent quand ils le peuvent, parce que le problème, c'est que si ça vient de l'étranger, c'est pas simple. Et si ça vient de l'étranger, c'est pas simple.
Merci David, voilà pour les actus Anacofi, tout de suite les actualités métiers.
Club Anacofi, l'actualité.
On a déjà abordé en partie la réforme du courtage, la rémunération. On va se focaliser sur une nouveauté, David Charlet. L'assurance crédit emprunteur, ça vient de sortir, ça concerne tous les crédits immobiliers, évidemment. De quoi s'agit-il? Qu'est-ce qui se modifie? Qu'est-ce qui va changer pour nous, compatriotes?
C'est une bataille. J'ai l'impression que cette bataille dure depuis des années.
Homérique.
Oui, il y a un débat depuis, mais vraiment très très longtemps, hein, parce que on est au comité consultatif du secteur financier. J'ai l'impression que tous les ministres ont missionné les membres pour travailler sur ce sujet de l'assurance emprunteur. Le point d'atterrissage, on va passer ce qui s'est passé avant, mais enfin, je crois qu'on a 3 ou 4 lois déjà qui ont touché à ça. Des positions du CCSF nombreuses, au moins 2. Ce qui est déjà pas mal en l'espace de juste quelques années. Et un rapport, il me semble. Bon. Là, ce qui s'est décidé, c'est très simple, c'est en fait la capacité pour faire très court, de résiliation à tout moment. Alors, il y a des conditions d'accompagnement de ça, parce qu'il fallait pas que ça se fasse n'importe comment, parce que les banques disaient oui, mais non, vous allez déstabiliser telle ou telle chose. Toujours est-il que, donc là, apparemment, vous avez un texte qui, lui, semble solide et qui va permettre aux gens de résilier. Et puis, vous avez une deuxième partie qui est la disparition du questionnaire de santé sur des crédits jusqu'à un certain montant. J'entends qu'il y a des discussions. Je ne sais pas s'il n'y aura pas une action contre cette deuxième partie-là, de la part de ceux qui ne sont pas d'accord. Sauf que je crois aussi comprendre en même temps que pour beaucoup d'acteurs, c'est un point d'équilibre. Alors, voilà, on va voir, mais c'est les deux éléments principaux. Écoutez, nous, on avait milité pour le fait qu'il y ait une capacité de changer son assurance à tout moment.
C'est vrai que c'est un peu étonnant, on resitue le débat, évidemment, pour les auditeurs, ceux qui ont raté le début. On se dit pourquoi on ne pourrait pas changer d'assurance, comme on le fait par exemple pour sa voiture, pour son habitation, c'est-à-dire au bout d'un an, pouvoir librement se dire, bah tiens, peut-être on comparait, et puis soit la banque est... Parce qu'en général, le crédit immobilier, la banque fait également un crédit emprunteur, ils étaient un peu arc-boutés là-dessus. C'est évidemment une grosse source de revenus pour eux, mais à un moment, bah, c'est la loi aussi du marché.
Oui, mais c'est un débat qui ouvre sur tout un tas d'autres débats et qui c'est une vraie guerre de position avec des vrais arguments dans un sens et dans l'autre depuis des années. Alors nous on a décidé de trancher d'une façon très très basique. Je veux bien entendre tous les arguments des banquiers qui disent il faut pas le faire et j'entends aussi tous les arguments de ceux qui disent il faut absolument le faire. Nous, en tant que représentants des métiers du conseil des clients finaux, du coup notre position est très simple. Nous, on défend ce que le client veut. Et il se trouve que des clients veulent ce genre de solution. Alors à partir de ce moment-là, si les associations de consommateurs et si nos clients nous remontent l'information que ce serait bien, ben on est dans le camp de ceux qui disent « Écoutez, ce serait bien ». Que ça dérange et qu'il y ait des explications techniques de nos amis banquiers et autres, en disant « Non mais ça va poser tel problème, et il ne faut pas... » Il n'y a pas de problème, je veux bien entendre l'argument, et dans les débats, nous on a dit tout ce qui pourra arranger, il y a une réalité d'entreprise de l'autre côté, j'entends bien. Mais voilà. Et puis, c'est vrai que du coup, nous en tant que d'intermédiaires, on a aussi vu autre chose, c'est que oui, les banques nous ont un peu serré sur ces sujets-là. Donc entre la demande du consommateur qui faisait qu'on disait plutôt vers le consommateur, c'est notre métier, c'est de l'accompagner. Et puis de l'autre côté, les banquiers qui jouaient pas trop le jeu de nous intermédiaires en nous tapant dessus, stop. Donc écoutez, on soutient le projet de passage sur ce type de texte, et puis point barre. Et par contre, on s'est pas embarqué dans des fioritures, des analyses et des débats de folie. Nous, d'autres l'ont fait. Voilà, on a pris une posture qui est assez simple et assez facile à expliquer. Voilà, tant mieux. Ce texte est arrivé. Sur les questionnaires de santé, ça soulève quand même d'autres questions, mais très bien.
Bon, sachant qu'il y a certaines banques qui se sont emparées du sujet, qui ont dégainé un petit peu avant, en disant, voilà, plus de questionnaires de santé chez nous, ça ouvrira peut-être une brèche par rapport aux autres.
C'est un coût. Attention, il faut quand même considérer que c'est un coût. Hein. Donc, la première qu'il a fait, on en connaît le coût, c'est le prix d'une campagne de com, c'est donc pas très cher, parce qu'elle a eu sa campagne de com amplifiée. À l'échelle de l'ensemble du marché, ça peut avoir un coût. Faudra voir la répercussion de ce coût.
Voilà, qui paye au final, c'est vrai que les grands équilibres. Autre sujet, actu métier, toujours l'ESG. Où est-ce qu'on en est? Je vois que vous avez une commission qui planche, bien évidemment.
Alors, la commission, j'ai eu son président hier, il va relancer quelques travaux. Pourquoi? Parce que, alors, si tout se passe bien, même si là aussi il y a des demandes de report, pas de notre part, mais il y en a, à partir d'août, on va devoir appliquer de nouvelles règles en matière d'ESG dans nos entreprises aussi. Donc on va lancer les travaux de la commission ESG, les travaux 2022, avec plusieurs objectifs. Le premier, c'est de participer aux travaux de place français sur le sujet, et il y en a. Donc on a déjà collaborer à certains, mais par exemple Paris Europlace doit rendre plusieurs copies et le son think tank aussi, donc là-dessus on est, comme on en est membre, ben on collabore et il va falloir qu'on aide à construire ces notes et ces positions, et puis tout simplement quelque chose de très très pratique, fournir à nos membres ces questionnaires et toute la documentation, tous les kits qui seraient possiblement obligatoires en août. Sachant qu'il y a déjà quelques contraintes aujourd'hui, mais elles concernent que quelques membres. En août, ça pourrait concerner quasiment tout le monde, sauf si c'est déporté à janvier de l'année prochaine, ce qui est une demande de certaines organisations européennes ou de certains pays tout court. Ça, on verra, mais au moins, l'idée, c'est d'être prêt pour que en août, nos membres puissent savoir ce qu'ils veulent. Et puis, si c'est déporté à janvier, reporté à janvier, tant mieux. On aura déjà fait le boulot. Et puis, de préparer peut-être une synthèse de tout ce que l'on aura fait et des mises à jour de tout ce qu'on a déjà rédigé sur l'ESG pour la rentrée de septembre.
Très bien, voilà pour ce sujet. Rémunération, là aussi, on en a parlé dans les actuels Nacofi.
Bah, on en a parlé tout à l'heure, hein. Donc je pense qu'on est, nous, à la bataille parce qu'on fait partie des grandes organisations françaises et européennes impliquées là-dedans. Moi, c'est vrai que la bataille sur les rémunérations, je l'avais menée la première en étant président ou vice-président de la Fédération Européenne, donc à l'époque aux premières loges. En plus, avec à l'époque un eurodéputé qui portait ce projet, qui était Marcus Ferber, qui portait MIF, et dans lequel il y avait ça avec qui il fallait échanger. Et un Marcus Ferber avec qui avait lu nos positions, avec une petite particularité, et que Marcus Ferber, c'est il aimait bien pouvoir échanger avec des gens qui parlaient allemand, et il avait dû lire dans mon dossier que j'avais passé un moment en Allemagne, donc il aimait bien échanger avec un Français censément capable de parler allemand, ce qui m'a permis de découvrir que c'était nettement moins vrai qu'à une certaine époque. Mais voilà, et donc ce débat-là, on l'avait mené à l'époque. En étant au moins le porte-étendard pour nos métiers au niveau européen. Donc on est toujours impliqué là-dedans, mais tout le monde est impliqué. Et aujourd'hui, par contre, ceux qui portent le projet à Bruxelles ne sont plus forcément des gens convaincus par un des camps ou par une des logiques. Mais si on devait quand même me dire quelque chose, on pourrait dire que les fonctionnaires semblent plutôt convaincus qu'il faudrait, pour des raisons limite philosophiques, supprimer les rétros, et les élus seraient plutôt majoritairement convaincus qu'il faut pas changer de modèle, puisque le modèle dominant n'est pas fait la démonstration qu'il ait posé des problèmes. Entre les deux, les associations de consommateurs disent faut tout virer, et mais en fait ils visent seulement 3 points et 3 raisons, donc on comprend pas pourquoi ils veulent l'étendre sur tout. Et puis les organisations professionnelles disent écoutez, laissez-nous faire notre boulot, vous n'arrivez même pas à démontrer qu'on fait des dégâts, quoi. Vous démontrez sur un produit, dans un cas précis, voilà. Et vous nous parlez de tech en oubliant que la tech est aussi payée en rétro dans la majorité des pays d'Europe, donc le sujet c'est pas un sujet de modèle, c'est un sujet de prix. Réglons le problème du modèle et venons parler du prix après, si vous voulez.
Ouais, mais on sait qu'effectivement, le prix en ce moment, c'est très important, ce fameux pouvoir d'achat qui s'invite évidemment dans le débat de la campagne présidentielle.
N'oublions pas que c'est fondamental dans le système européen. Je rappelle que la Banque Centrale Européenne a comme fonction d'éviter l'augmentation des prix.
Ouais. Bon, elle est en plein dans le sujet, là, avec l'inflation.
Elle est en plein dans le sujet, mais je vous rappelle que c'est dans l'objet de la BCE, et beaucoup de gens l'oublient. Pourquoi on a toutes ces contraintes, pourquoi on nous enquiquine dans tous les métiers, et tous les métiers le racontent, sur une contrainte des prix, ça n'aide pas les entreprises à avoir de l'argent. Eh bien, la BCE, c'est son job. C'est l'un de ses 3 ou 4 jobs. Je crois qu'on lui en a rajouté un, mais voilà, c'est dans son objet même. Ouais. Donc, en effet, l'Europe exerce une pression à la baisse sur les prix par nature, et à la limite, même, c'est dans sa constitution. Pas de constitution, on le sait très bien, mais c'est dans l'une des missions qu'on lui a données.
Intéressant, alors que la Fed, elle, a aussi un œil sur l'emploi.
Exactement. On n'a pas du tout les mêmes choses, on n'a pas du tout le même viseur. Je vous rappelle, alors là, c'est un peu technique, mais ce sont des CGP qui écoutent. Je vous rappelle que les agrégats monétaires que nous suivons sont pas les mêmes en Europe et aux États-Unis. Ce que l'on vient de faire pour la crise est très perturbant pour les instances européennes.
Bon, on aura l'occasion d'en reparler. Merci David Charlet, le président de la Nacofi. On a fait le tour des infos. On se retrouve très prochainement pour un prochain Club Nacofi.
Club Nacofi, l'émission dédiée aux conseillers en gestion de patrimoine sur Radio Patrimoine.